Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je connais depuis quelques temps, mais qui n'est jamais passé sur le podcast. Il s'appelle Romain Tardy et on est dans la continuité des épisodes autour de l'acquisition. Salut Romain.
Salut Adrien.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente de te recevoir. Ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter et revenir rapidement sur ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet du jour, l'acquisition?
Ouais, avec plaisir, je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Romain Tardy, je suis le fondateur de Bureau Tardy. Bureau Tardy, c'est un bureau stratégique et créatif. On accompagne les marques des industries de la mode et de la beauté dans la construction, l'élaboration et le développement de leur récit de marque. Et sa retranscription sur le digital de manière globale, que ce soit en site web, en paid media ou en content. On cultive un lien très fort avec le social qui est vraiment au cœur du bureau, de son propos et de sa manière de penser, de réfléchir les narrations qu'on peut développer et construire avec les marques.
Trop bien. Et avant tout ça, t'as fait quoi ?
Avant tout ça, écoute, j'ai un parcours un peu particulier. D'ailleurs, je crois qu'il y a un enchaînement de parcours particuliers dans cette industrie. Donc
finalement, c'est des parcours particuliers. À chaque fois, les gens ils me disent, mais
voilà. J'ai une formation juridique de base, puisque j'ai un master de droit des affaires à la Sorbonne. J'ai enchaîné les stages dans des cadres juridiques, en cabinet d'avocat, en institution internationale, à l'UNESCO en l'occurrence, en ministère également. Et à la fin de mon cursus, après avoir multiplié les expériences, je me suis dit que vraiment, c'était vraiment pas fait pour moi de me projeter dans cet univers-là pendant les 40 prochaines années. Et que c'était un peu anxiogène pour moi. Donc je me suis à la place de passer le barreau, j'ai décidé de suivre un peu mes tripes et mes envies profondes, qui étaient en l'occurrence de travailler dans l'industrie de la mode. Je savais pas trop pour faire quoi à ce moment-là. Je savais que j'avais envie de bosser sur des questions stratégiques avec du sens dans cette industrie-là. Et j'ai commencé à bosser pour une marque qui s'appelait Brooklyn Guard, BWGH, qui a son petit succès à l'époque avec David Obadia qui a créé Harmony, que tu as eu l'occasion. Ouais. Donc voilà, j'ai bossé pendant un peu plus d'un an où je travaillais sur le développement de la marque. Donc ça a été une année incroyable. C'était l'année de la marque était vendue chez Colette, Isetan, Opening Ceremony, Bloomingdale's, enfin elle était dans plus de 300 points de vente chez Wooster, enfin bon, c'était assez incroyable et sur des collaborations assez folles. On travaillait, David nous laissait pas mal de liberté, donc on pouvait également travailler sur l'image, enfin je travaillais sur l'image avec lui, donc voilà, ça a été vraiment hyper riche. Et par la suite, j'ai décidé de reprendre mes études à l'IFM, donc l'Institut français de la mode. Voilà, pareil, année incroyable. Je conseille à tout le monde cette formation. Et après, passage en maison chez Givenchy sur un poste de marketing, également chez Riquiel, en distrib également. Et en fait, assez rapidement, je me suis lancé en free. Je me suis lancé en free où j'ai travaillé, donc où j'ai accompagné des marques sur de la strat, beaucoup social media, strat de marque également, et du paid également en parallèle. Et j'ai monté Bureau Tardi il y a maintenant 9 mois, en lancement donc en juillet. Et nous sommes déjà 5 dans l'équipe, bientôt 6 je crois la semaine prochaine. Donc voilà, la croissance se passe bien.
Bravo, ça fait plaisir en période, dans la seconde période dans laquelle qu'on traverse.
Ouais, on a la chance d'être d'être sur un secteur où ça se passe bien, en l'occurrence le digital et le social.
Hyper intéressant ton parcours, je n'avais pas tout ça en tête. Ma première question, au-delà de ton parcours, parce que je ne vais pas rebondir forcément dans ton parcours, parce que pour laisser le plus de temps possible sur la partie acquisition, même si je pense qu'il y aurait de la matière pour faire un épisode entier sur ta vie, ton œuvre.
Pour une prochaine fois.
Exactement. J'aimerais que tu nous redéfinisses ce que c'est que l'acquisition.
Alors, concrètement, l'acquisition, qu'elle soit marketing ou client, en fonction de comment on appelle, c'est toutes les actions qui vont viser à attirer des nouveaux visiteurs sur ton écosystème digital, site web, landing page, réseaux sociaux. Concrètement, c'est ce qu'on appelle les audiences ou prospects froids. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des campagnes d'acquisition qui vont permettre de promouvoir un produit auprès d'une audience qui est nouvelle, donc qui ne connaît ni le produit ni la marque, et donc de s'appuyer sur différents canaux pour mettre en valeur ce produit. Donc, que ce soit l'optimisation par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les publicités, que ce soit online ou offline, les blogs, voilà. Voilà un peu pour définir le périmètre.
Très bien. Et eh ben, je te propose qu'on digue un petit peu le social media, parce que c'est quand même ta spécificité, en tout cas ta spécialité. On creuse, on digue, vas-y, let's go.
le premier truc qui me paraît intéressant, c'est déjà pourquoi est-ce que le social media c'est le canal d'acquisition le plus pertinent. Pour une raison hyper simple, c'est parce que c'est le plus rentable à cause du nombre d'utilisateurs actifs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux de manière globale, on les consomme, voire même on les surconsomme. Le chiffre, je crois que c'est qu'on consomme 8 social media différents par jour. Donc ça comprend Instagram, TikTok, WhatsApp auquel on pense jamais, Messenger, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube également auquel on pense jamais, qui est un réseau social. Et on y passe plus de 2 heures par jour. Donc c'est conséquent, c'est hyper conséquent, et donc c'est un temps d'attention pour les marques qui est inestimable. Aussi, c'est un moyen d'interagir entre la marque et le consommateur. Un moyen de se divertir, de se renseigner, de s'éduquer, mais aussi d'acheter. C'est aussi la part du social selling, elle est en pleine explosion. Donc c'est pour toutes ces bonnes raisons-là que le social est hyper pertinent et hyper important dans les stratégies d'acquisition des marques aujourd'hui. C'est une occasion hyper simple pour les marques de créer un lien qui va être un lien quotidien, un lien de proximité avec leurs audiences et donc leurs clients potentiels. Et qui plus est, c'est un levier hyper puissant pour émerger sur le marché de manière très très rapide et convertir également de manière très rapide leurs audiences en clients. Parce que l'acquisition, c'est vraiment cette idée d'avoir un prospect froid et de le faire descendre dans le funnel de conversion pour qu'il devienne un client in fine. Vas-y.
Non, ça coupe. Non, c'est pas que ça coupe pas, mais il y a un petit décalage, je pense. Dans le social media, il faut distinguer peut-être l'organique et le paid. Est-ce qu'on peut fonctionner en faisant que de l'organique? Est-ce qu'il faut absolument faire du paid? Et si on fait du paid, comment on le fait? Mon autre question aussi, c'est que j'ai un milliard de questions en fait, que je vais te poser au fur et à mesure, ou si on te déballe tout d'un coup. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, cette connexion directe avec ta communauté. C'est vrai qu'il y a tellement de marques aujourd'hui qui n'auraient jamais pu exister, et je m'inclus dedans, sans les réseaux sociaux. En fait, toutes les marques qui se lancent aujourd'hui from scratch avec quelques milliers d'euros et qui arrivent à faire des petits business ou des plus gros business avec assez peu de moyens, c'est quand même complètement hallucinant. Ma question, au-delà de la distinction entre l'organique et le paid, comment est-ce qu'on le fait bien, quoi, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut incarner absolument et faire de ta vie et faire de ta marque j'aime bien dire ça souvent dans mes discussions en ce moment, mais j'ai l'impression que quand tu suis un compte, en tout cas moi quand je suis un compte, j'ai l'impression de vivre une télé-réalité de la marque. Et notamment, je pense, tu vois, à un Jacques Musse chez les restaurateurs le font très bien, et j'en ai un en tête qui s'appelle Oli Belli, que j'ai eu sur mon podcast. Et quand tu suis ces comptes-là, t'as l'impression en fait de vivre leur vie. C'est vie ma vie de restaurateur, vie ma vie d'entrepreneur dans la mode, vie ma vie expérience mon monde au travers de mon téléphone, quoi.
Ouais, il y a deux vastes sujets là que tu viens d'ouvrir. Déjà sur le effectivement, bon, comme tu l'as expliqué, donc il y a deux typologies d'acquisition potentielle via le social, le paid et l'organique. C'est très drôle parce que ça me ramène quelques années en arrière, cette conversation, parce qu'on l'a déjà eue. Et mon point sur la question a un peu évolué, parce que la réalité du marché également a pas mal évolué. L'organique, c'est donc tout ce qu'on va... c'est la part de l'audience qu'on va atteindre par un post publié sur un réseau social quel qu'il soit, sans avoir recours à un format publicitaire ou un post sponsorisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le reach versus le paid, c'est-à-dire les formats publicitaires disponibles sur les différentes plateformes. Ta question, qui est hyper pertinente et qui revient très souvent, elle est la suivante, c'est: est-ce qu'on peut faire sans le paid aujourd'hui? Moi, mon sens aujourd'hui, si je devais avoir une réponse assez globale sur ce sujet-là, c'est que les deux deviennent indispensables dans les stratégies de marque. Il y a forcément certains contre-exemples. Je pense notamment à Veja, qui est l'exemple le plus iconique sur le sujet, qui avait fait de l'élimination des coûts marketing et donc de la publicité un argument de vente. Mais déjà, en fait, c'est une marque qui a été créée en 2004, je crois, avec un cœur de développement dans les années 2010, où tout était encore possible en termes de stratégie de contenu, et encore plus sur le social media. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Est-ce que c'est encore possible de faire que avec de l'organique? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a plein d'exemples de DNVB qui le font, et qui le font hyper bien. Est-ce que c'est ma recommandation? Pas nécessairement, puisque le paid peut faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, est-ce que le paid peut remplacer l'organique? Dans aucun cas, c'est pas possible. L'organique doit être l'élément central d'une stratégie de marque. C'est l'élément indispensable. Je passe mon temps à expliquer aux marques en ce moment qui nous contactent pour la partie paid que ce sera pas un outil miracle, que ce sera un facilitateur, un accélérateur de croissance. Mais qu'en aucun cas, le travail qu'on fera sur le paid ne pourra leur permettre de se substituer au travail qu'il y a à faire sur l'organique. Et ça, pour moi, c'est l'élément central. Aujourd'hui, pour une marque qui se lance, d'abord travailler sur l'organique. C'est l'organique qui doit être au cœur de vos préoccupations. Pour plein de raisons déjà, parce que le paid, maintenant, ça coûte de plus en plus cher. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont dessus. Donc, pour émerger sur le paid, il faut de l'hyper-compétence qui doit être challengée en permanence. Donc, ça nécessite de travailler soit avec un très bon freelance, soit avec une très bonne agence. Et donc, du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, moi, aujourd'hui, ma recommandation sur la partie acquisition aujourd'hui, pour les jeunes marques, c'est aller, mettez tout sur l'organique, clairement. Le paid viendra dans un second temps. Pour les marques les plus installées ou en tout cas en phase de croissance, le paid peut être un très bon accélérateur, un très bon relais. Voilà.
Ok.
Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter sur ce point-là? Ouais, tout ce qui va être sur le... est-ce qu'on peut développer sa notoriété? Est-ce qu'on peut faire de l'acquisition grâce au paid? Bien sûr, mais c'est pas du tout un outil de développement de la communauté. Ça, c'est le rôle de l'organique. Le budget investi sur l'acquisition en paid, il serait bien mieux investi sur de l'organique à travers de la production de contenu avec un impact et un effet sans commune mesure. Un euro dépensé sur de la production de contenu rapportera toujours plus qu'un euro dépensé sur du paid pour de l'acquisition.
Et t'as des exemples un peu plus précis là-dessus. Je me rappelle, tu as bossé pendant longtemps, je crois, pour une marque comme Usband. Je ne sais pas si tu bosses toujours pour eux.
Non, je collabore plus avec eux, mais effectivement, on les a accompagnés pendant pas mal de temps. C'était à l'époque où j'étais encore freelance, donc j'étais seul à ce moment-là sur toute l'élaboration de la prise de parole de la marque, également du site et des campagnes paid, etc. Husband, c'est un exemple parfait de l'équilibre entre les deux, avec une stratégie organique qui était hyper rodée. Une signature dans les photos, des taux d'engagement qui étaient parmi les meilleurs sur le marché sur Instagram, et en parallèle du paid qui venait soutenir, mais c'était vraiment du soutien. Le paid avec comme objectif de faire de la conversion, pas en tant que tel de faire de la notoriété. Ça l'a été dans un premier temps, mais après notre objectif c'était vraiment faire de la conversion.
Ouais. Hyper intéressant. Et qu'est-ce qui faisait que ce que vous faisiez à l'époque sur Husband était pertinent, était efficace et c'était vraiment toute la DA en fait. C'est plus la DA qui faisait la différence plus que toute autre chose. Quoi.
Plus que la DA, c'est un, la justesse de propos, deux, la radicalité de la proposition. C'était quelque chose qui n'existait pas sur le marché en termes narratifs. Nicolas Gavard, donc, qui est le fondateur de Husbands, d'ailleurs je m'étonne que tu ne l'aies toujours pas reçu.
Ouais, mais moi aussi, à chaque fois que j'en entends parler, je me dis putain, mais il faut vraiment que l'interview est ce mec.
Nicolas, c'est du pain béni pour un podcast, et c'est l'une des personnes les plus passionnantes de cette industrie. Et donc, ouais, la justesse, la radicalité du propos, un vestiaire qui est hyper bien construit, parce qu'il y a le produit également qui suit, et ouais, des parties prises, de la radicalité. Moi, c'est ce que je dis en permanence aux marques, ce qui permet d'émerger sur l'organique aujourd'hui, de créer, d'émerger rapidement, c'est la proposition de valeur qu'on va avoir la force de la narration. C'est comme ça qu'on crée de la croissance et qu'on émerge sur le social aujourd'hui. C'est tout simplement une marque qui n'existe pas ailleurs, avec une proposition de valeur qui n'existe pas ailleurs, avec des partis pris, avec de la radicalité. Cette notion de radicalité, pour nous au sein du bureau, elle est essentielle, parce que c'est comme ça qu'on crée des marques particulières qui vont se distinguer sur le marché
avec de l'aspérité. Et t'as des exemples en ce moment que tu trouves qui sont hyper forts, quoi?
C'est un autre client, mais je trouve que c'est l'une des marques qui a l'une des euh, où il y a cet équilibre parfait entre organique et paid, et sur la partie organique, une vraie force dans la proposition, c'est Marcia, donc qui a commencé à se développer. Il y a une marque de prêt-à-porter féminin créée par Emma Reno, qui a commencé donc à se développer avec un petit carton autour d'une robe qui s'appelait donc la Cheeky Boom pour les auditeurs. Donc c'était la robe ouverte sur les côtés qui se porte d'ailleurs toujours sans culotte, et en fait toute la plateforme de la marque était autour de une femme hyper powerful, hyper sexy, qui s'assume, encore de la radicalité dans le propos, et une hyper importance autour de la fête, de la musique, et de la joie de vivre et de l'empowerment. Donc voilà, il y avait c'est des mots un peu valises là que je cite, mais allez voir, vous allez voir la force de la proposition. Et la marque, elle a juste explosé. C'est une croissance stratosphérique. Donc nous, on les a accompagnés sur les éléments de strat en amont, et on les suit là toujours sur la partie paid. Et la croissance, elle est juste folle. Elle est juste folle.
T'exagères un peu, non?
Je te promets, sur ma vie, c'est l'une des croissances les plus rapides que je vois. C'est quand tu fais de la croissance tous les mois, tu vois, que t'es pas sur tous les 6 mois, c'est vraiment la croissance, elle est vraiment très très forte. Merci. Et en fait, en vrai, il y a juste, moi je le vois également dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand je vois autour de moi, il doit y avoir, je sais pas, une fille sur trois qui a acheté ou veut acheter un des produits de la marque.
Ouais,
il y a
pas
une fille qui parle de la marque qui me dit pas que soit elle a déjà plusieurs produits, soit elle a envie de les acheter. Non, la croissance, elle est hyper forte. Elle est hyper forte sur beaucoup de marchés. Donc c'est une marque qui partait de quasi rien, hein, il y a 2 ans. Hein, il y avait un tout petit chiffre d'affaires.
Trois copines. Et ça tombe bien parce que Emma, je l'interview bientôt, donc on va pouvoir.
Pareil. c'est, elle sera, à mon avis, on point.
Trop bien. Hyper intéressant. Donc, Doua, tu nous parles de Husband, de Marcia. Quoi d'autre? T'as d'autres exemples comme ça, un peu sexy?
Alors, sur Delina, je vais essayer de parler de quelqu'un avec qui on n'a pas travaillé pour être un peu moins jugé parti.
Tu tires la couverture vers toi. Hein.
Ouais, un peu. Hein. Qui je pourrais citer d'autre? Là, spontanément, j'ai personne qui me vient.
On en reparlera sur d'autres sociaux, d'autres sociaux médias. Trop bien. Comment est-ce qu'on construit une stratégie d'acquisition gagnante via le social media?
La première des choses à faire, c'est déjà d'identifier les bons canaux et les bons réseaux sociaux. Une stratégie social media se réfléchit en amont. Elle s'adapte en fonction de ta cible, de ton meilleur persona. S'ils sont pas présents, si ton client est pas présent sur les réseaux sociaux ou ta marque décide de communiquer, en fait, elle parviendra jamais à générer des leads et donc des ventes. Donc c'est pas très intéressant. Donc c'est vraiment identifier ça. Et quand je dis ça, c'est vraiment le faire sans. Le faire à froid avec un esprit vraiment très analytique. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram très bien, mais en fait, il faut être à même de venir challenger cette réflexion autour de Instagram en se disant, est-ce que c'est le réseau le plus pertinent par rapport à ma cible ou pas, ou est-ce que je devrais y être ailleurs? Quelle énergie je dois investir sur quel canal? Est-ce que j'ai des opportunités, par exemple, grâce à la spécificité de mon produit sur Pinterest, et que c'est pas là, par exemple, que j'ai le plus intérêt? Est-ce que, compte tenu du fait que ma cible est hyper jeune, j'ai pas plus intérêt à tout miser sur Snapchat et sur TikTok, quitte à abandonner d'autres plateformes? Donc c'est vraiment hyper important de se poser de la question, et se poser la question des des moyens qu'on alloue à chaque canal. Le deuxième point, je dirais que ce serait construire une ligne éditoriale, qui va être spécifique. C'est ce que j'ai dit à propos de Husbands et Marcia. L'idée, c'est vraiment de capter l'attention des gens. Pour capter l'attention, il faut avoir des partis pris, il faut avoir quelque chose d'un peu fort et de radical pour espérer faire entrer l'audience dans l'entonnoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on capte pas l'attention en faisant comme tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'avoir un récit qui soit fort, distinctif, lui donner corps, avec des typologies de contenu qui soient marquées avec des vrais partis pris. Par exemple, sur Marcia, c'est hyper intéressant parce que en l'occurrence, il y a un parti pris qui est hyper fort, qui est autour de la sexiness de la marque. Il y a un truc très très sexy, voire quasi suggestif dans le propos visuel de la marque. Ce qui peut parfois d'ailleurs ce qui a été d'ailleurs un problème pour nous sur la partie paid en aval, parce que le groupe Meta, ça aime pas beaucoup la chair, et encore moins quand c'est la chair d'une femme. Donc voilà. Mais en fait, là, la force du propos, elle vient finalement prendre le pas sur ce contretemps, on va dire, sur cet élément négatif qui est plus technique d'ailleurs qu'autre chose, qu'il faut toujours prendre en compte notamment, malgré tout. Et le troisième conseil que je pourrais, enfin le troisième élément important en tout cas, c'est utiliser et prendre en compte la puissance du social. Faut connaître les réseaux sociaux pour en faire un canal d'acquisition. Faut connaître les réseaux sociaux pour améliorer le reach. Faut vraiment s'en imprégner. Instagram, c'est des codes, c'est une culture, c'est aussi un algorithme. Et si on connaît pas ces éléments, ben on risque pas de maximiser son potentiel d'acquisition. En revanche, si on les applique, ces règles, ces codes, et qu'on connaît bien l'outil, on peut décupler la puissance potentielle d'une publication en organique.
Et ce qui est marrant, c'est que ces codes, ils évoluent et ils bougent. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté du truc. Quels sont-ils aujourd'hui, ces codes?
T'as totalement raison. Ça bouge de plus en plus vite. Et donc, du coup, les marques sont de moins en moins à même de tenir le rythme, en fait. Ce qui était valable en 2019 n'est absolument plus valable en 2022. Et encore, en fait, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, ça bouge encore plus vite. Et je pense notamment à l'arrivée de TikTok, qui est un peu en train de chambouler le game par rapport à Instagram. On va se concentrer sur Instagram d'abord, sur finalement comment est-ce qu'on tire profit de l'algorithme. Alors, en fait, tout simplement, il faut partir de ce qu'est Instagram aujourd'hui en 2022, de ce que Instagram veut être, et donc du coup de qu'est-ce qui en découle. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus une application de partage d'images, mais de vidéos. Donc déjà, ça, faut l'avoir en tête. Et ça va avoir des effets concrets sur tout ce que je vais te dérouler par la suite.
On arrête de faire des photos, on fait que des vidéos.
Alors, il n'y a pas cette forme de radicalité là, mais en fait, de manière hyper concrète, la vidéo, c'est un format qui est hyper poussé par Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un concurrent qui s'appelle TikTok et qui est en train de leur voler pas mal de parts de marché, qui sont en train de flipper et qui sont donc en train de pousser le format vidéo. Également parce qu'il y a une évolution de l'usage des consommateurs en termes de contenu. Mais effectivement, ouais, c'est la vidéo a une part hyper importante. L'autre élément par rapport, et je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la question hyper intéressante de finalement, est-ce que j'arrête de faire de la photo ou pas, et je fais que de la vidéo, je vais répondre un peu plus dans le détail, mais je voulais insister sur le deuxième élément qui est que Instagram, c'est une application autour de la communauté, et ça, il y a plein de gens en fait qui ont tendance à l'oublier. Instagram, c'est pas un blog, c'est pas les plus belles photos de ma collection que je poste, et si t'as envie de les liker, c'est bien, sinon tant pis. C'est un lieu d'échange en fait, et en fait faut donner vie à ça. Ça passe par quoi de manière très concrète? Ça part en fait par le fait de discuter avec votre communauté, liker, commenter, répondre aux commentaires, répondre aux réactions, être réactif dans les DM. En fait, l'interaction, c'est un peu la règle aujourd'hui, et elle est valorisée par l'algorithme. Tant qu'une marque, elle prend pas de la décision d'instaurer cette relation-là avec son public, en fait, l'audience, elle sera peu encline à interagir, et donc l'algorithme va considérer que le contenu n'est pas pertinent. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas d'échange, c'est que le contenu n'est pas pertinent. En revanche, si la communauté réagit au contenu, ça veut dire que le contenu est pertinent. Et la communauté est d'autant plus encline à réagir au contenu si elle sait qu'elle va avoir une réponse en face, ce qui est assez logique. Donc voilà, toujours dans ce truc de créer la discussion avec la communauté, il faut partager les publications provenant d'autres comptes éventuellement qui intéresseront également l'audience. Remercier les partages, les mentions, bref, faut être proactif, quoi. C'est vraiment la clé finalement pour venir recruter même de nouveaux abonnés, c'est faire plaisir à l'algorithme, fidéliser les gens, leur permettre de s'engager et encourager cet échange. Ça, c'est le premier élément que je relèverai. Donc, pour revenir sur les formats vidéo, c'est vraiment un format privilégié. Est-ce qu'il faut abandonner l'image? Non, pas du tout. Mais en revanche, faut vraiment, parce que je sais que ça a beaucoup été dit dans tes podcasts, mais je ne vois pas la retranscription en termes de contenu auprès des marques. J'insiste. Moi également dessus, faut vraiment privilégier les formats vidéo, que ce soit en feed, que ce soit en stories, faut créer et produire des reels de manière concrète. Ça a un impact très concret sur le reach. Concrètement, vous allez être capable de parler à beaucoup plus de gens en dehors de votre communauté avec cette typologie de format. C'est pour ça que c'est intéressant le format vidéo, c'est parce que c'est poussé par Instagram, pas uniquement auprès de votre communauté existante, mais également auprès des autres endroits, notamment l'Explorer, qui permet donc de venir découvrir des contenus qu'on ne suit pas. Et donc, pour l'acquisition, faire des Reels, c'est juste indispensable. C'est vraiment indispensable. Faut vraiment l'avoir au cœur de sa stratégie. Donc la vidéo principalement en format Reels, l'intégrer aux stories également pour faire vivre cette histoire, et également au sein du feed pour continuer à raconter ces histoires et montrer cette diversité de contenu.
Non, je rebondis sur ce que tu dis, mais la difficulté que je ressens dans ces marques de mode, c'est un petit peu de lâcher prise sur parce qu'en fait il y a vidéo et vidéo. Si tu fais une vidéo très léchée, elle aura aucun reach. Si tu fais une vidéo vraiment avec ton téléphone en mode face cam ou même en filmant ta collection, ton vêtement, etc., tu auras beaucoup plus de chances d'avoir du reach, et c'est contre culture en fait. C'est contre la culture de la mode qui est absolument contrôle fric de toutes les images qu'elle poste. Et voilà, c'est marrant parce que j'avais cette conversation encore hier. T'as le sentiment que en fait, les gens de la mode sont restés sur ces codes de photos très léchées, très éditées, très produites, etc. Alors que tu as l'impression qu'en face, tu as un social media qui demande tout le contraire, en fait, qui demande de la vraie vie, du concret, de la real life, quoi.
Et le culte de l'authenticité, ouais. C'est l'un des termes clés de plateformes comme Instagram et TikTok encore plus.
Donc c'est une entreprise et c'est très très difficile pour.
Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Parce que je pense qu'il existe un entre-deux. Je n'oppose pas le contenu très très comment dire, voilà, téléphone à la main, production inexistante versus la campagne vidéo hyper léchée. Je pense qu'il y a une voie entre deux qui n'a pas encore qui ne s'est pas assez développée, mais où on peut créer du contenu qui soit authentique, qui répondent en fait aux besoins d'incarnation et de proximité des plateformes, tout en faisant quelque chose d'hyper léché, esthétisant et du beau. Alors effectivement, il y a un impératif qui est qu'il faut produire beaucoup de contenu aujourd'hui. Et donc du coup, ça veut dire que tous les contenus ne seront pas parfaits avec avec des journées de retouche, etc. Mais il y a une voie alternative qui existe. Je pense que notamment l'exemple de Balenciaga est un assez bon exemple de contenu. On laisse la part à l'humain avec une vraie réflexion autour de ce qui fait l'engagement dans les plateformes, et une vraie réflexion sur finalement ce qui est demandé, en partant de l'ADN de la marque toujours. Balenciaga, c'est un hyper bon exemple de marque qui n'a pas travesti son propos, mais qui est juste venir retranscrire l'ADN de la marque avec les impératifs des plateformes. Et sur ça, c'est hyper intéressant. Mais la prise en main du format vidéo par les marques, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, elle est très imparfaite. Elle est vraiment très imparfaite, donc et qui a encore une autre voie à trouver. Nous on réfléchit beaucoup sur ce sujet-là, et on est persuadé qu'il y a un entre deux.
Bah, ton exemple, c'est Balenciaga, ils sont milliardaires, et je pense qu'ils ont, même si je suis d'accord avec toi, où ils mettent pas forcément des budgets de dingue dans leurs vidéos. Enfin, je pense qu'ils mettent un peu d'argent, mais une marque peut-être plus petite avec moins de moyens, t'as des bons exemples de ça?
Je vais rebondir sur Balenciaga. Ce qui fait la force, en l'occurrence, je pense notamment à ce qu'ils diffusent en social ads et qui se retrouvent également en Reels et en TikTok, c'est pas le mannequin, c'est pas le cadreur, etc. C'est le propos narratif, le fait qu'il y ait de l'humour dans un second degré, un pas de côté. C'est ça qui est hyper important dans le propos de Balenciaga. Et honnêtement, une petite marque pourrait faire la même chose avec des idées. Donc voilà. En format vidéo, honnêtement, comme ça là, à chaud, non, j'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples là tout de suite.
Okay. Pas de problème. Pas de problème, mais c'est vrai que bon, c'est en tout cas c'est hyper intéressant tout ce que tu nous racontes. On passe sur TikTok.
Ouais, il y a juste un dernier truc que je voulais te sur la partie Instagram, et en fait qui est valable pour toutes les plateformes, mais sur Instagram c'est d'autant plus important. C'est vraiment, si on veut faire de l'acquisition et qu'on veut profiter du potentiel reach au maximum, c'est tester en fait les dernières fonctionnalités d'Instagram pour être toujours à jour. Ça pareil, l'algorithme en fait, il aime bien les bons élèves. Il aime bien les gens qui vont tester les nouveaux formats, qui vont s'en servir. Parce qu'en fait, quand Instagram sort des nouveaux produits, c'est pas juste pour le fun, ils ont envie que les gens ils s'en servent. Et que voilà, par exemple, le fait de publier en carrousel et en reels sur le feed, ça booste la portée. Taguer les produits, ça permet d'accroître la visibilité, parce que Instagram veut pousser le social selling, et donc veut que les gens achètent à terme sur Instagram. Donc quand vous taguez les produits, ils sont contents dans votre feed. Utilisez également les moyens de mise en page qui sont natifs. Ça, pareil, ils aiment bien. Ils préfèrent voir le contenu retouché, enfin, travailler plutôt avec les contenus d'édition natifs qu'une grosse prod en amont. Donc voilà, c'est utiliser toutes ces fonctionnalités en fait. Ouais. C'est les comptes à rebours, tous ces trucs là en fait, c'est valorisé par Instagram.
Trop bien. TikTok.
Déjà.
Ça passe vite. Ça passe vite. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, t'imagines?
Mon Dieu. TikTok, ouais, parlons de TikTok. Je crois que c'est un peu le gros sujet pour les marques en 2022. Il n'y a pas, dans toutes les marques que je rencontre actuellement, il n'y a pas une marque qui ne se pose pas la question et en même temps avec une forme de difficulté à se saisir des enjeux, de l'opportunité réelle que ça représente, et trois, avec une énorme inquiétude, ça qui est vraiment la toile de fond, qui est en gros comment faire en sorte de préserver mon tone of voice, comment faire en sorte que finalement la marque cartonne potentiellement sur TikTok, comment intéresser mon audience, comment garder le lien avec le récit de marque, enfin voilà, tout, et surtout est-ce qu'il y a un intérêt que j'y aille en fait, est-ce qu'il y a un intérêt profond. Moi sur ça j'ai un avis assez tranché. Je pense que pour plein de raisons différentes, j'invite les marques à se positionner sur TikTok en 2022. Alors je sais pas si ce sera en mars ou en octobre 2022. Mais pour plein de raisons, ça me paraît être la plateforme du futur avec beaucoup d'opportunités. Quelques éléments chiffrés qui permettent un peu d'étayer mon propos. TikTok, c'est 3 milliards de téléchargements seulement 3 ans, alors que Instagram a mis 10 ans pour atteindre ce chiffre. Donc déjà, une croissance qui est folle. En septembre 2021, TikTok, c'est plus de 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Pour 2022, on sera courant 2022 à 1,5 milliard d'utilisateurs, ce qui en fera la sixième application social media au monde, devant Instagram. Donc déjà, ça permet un peu de resituer le truc. Concrètement, TikTok passe devant Instagram en termes de nombre d'utilisateurs en 2022. Donc c'est déjà... C'est un élément de warning.
un gros élément, ouais.
Ouais. Point suivant, le temps d'attention sur TikTok. TikTok, il détient le record en termes de temps d'attention avec 17,5 heures par mois. Petit comparatif avec Instagram. Instagram, c'est 8 heures.
Ah ouais.
17,5 heures versus 8 heures. Moi, perso, je suis une marque. Je me dis, OK, je vais pouvoir avoir un temps qui est plus de deux fois supérieur. Temps d'attention qui est de deux fois supérieur de la part de mon audience, j'ai plutôt très envie d'y aller. Tu as tous ces chiffres-là parce qu'on a déjà eu, on a déjà eu la conversation, donc j'entends déjà ta petite voix, Adrien, qui me dit « Oui, mais l'audience, etc. »
Elle est trop jeune.
Elle est trop jeune, cette audience. Ce que tout le monde me dit. Et qui est, en vrai, pour être totalement sincère, le grand bémol à ce jour. Ou en tout cas ce serait le grand bémol, et pour ça il faut un peu rationaliser les choses. Alors déjà, on a très peu de chiffres sur la réalité de l'audience aujourd'hui. TikTok ne communique pas dessus. Ce serait bien qu'il le fasse assez rapidement d'ailleurs, parce que ça commence à être un peu crispant, et je pense que les chiffres sont assez bons. Donc, voilà. Ce serait bien qu'il le fasse assez rapidement, mais bon, Instagram ne le fait pas non plus. Et sur le marché français, on n'en a quasiment pas, je crois. Donc, on a quelques metrics qui nous permettent de venir valider ou invalider le propos. Sur le marché US, c'est 75% de l'audience qui a plus de 20 ans. Donc c'est x6 en seulement 2 ans. Donc l'audience finalement est pas si jeune que ça, avec un bémol sur le marché français, pour être totalement honnête et transparent, historiquement le marché français est un peu plus a une audience qui est un peu plus jeune, par exemple que le marché britannique, où vraiment c'est y a beaucoup plus de gens de plus de 25 ans qu'à l'échelle du monde. Donc déjà, il y a une répartition assez disparate sur l'âge en fonction des marchés. La seule chose dont on est sûr, c'est que la Gen Z est globalement beaucoup plus représentée, avec une tendance globale qui tend à toucher toutes les générations. Donc en fait, c'est pas une application pour des gens entre 14 et 16 ans. C'est pas vrai, c'est plus la réalité de la plateforme aujourd'hui. Et surtout, en fait, la plateforme, elle est en pleine phase de changement et d'adaptation à un public qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Donc, y a un vrai vieillissement des audiences. Et en fait, ça, on le voit en passant du temps sur l'application. Moi qui passe beaucoup de temps, y a un vrai vieillissement qui se ressent de manière factuelle. Donc voilà, je vais pas mentir en disant non, pas du tout. La question de l'âge n'est pas un problème, c'en est un qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. En revanche, il y a un vieillissement et un vieillissement qui est exponentiel. Et donc ça aussi également, il faut le prendre en compte. Donc voilà. Et il faut le prendre en compte en fait pour tout simplement, en fait, c'est la même chose que sur Instagram. Il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui on a une plateforme avec une opportunité de marché qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs, notamment de l'industrie de la mode, qui sont sur TikTok. C'est désert. On aura peut-être l'occasion de parler des comptes qui performent le plus, ou en tout cas qui font le mieux leur devoir sur le sujet. Finalement, en fait, quand tu fais un benchmark, tu as vite fini ton benchmark, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'acteurs.
Il n'y a absolument personne. Et ceux qui sont trop forts sur Instagram, ils ne sont même pas présents, ou en tout cas, on sent qu'ils ont essayé à un moment donné, mais je pense notamment, tu vas voir un Jacquemus sur TikTok, ça fait de la peine, quoi. Tu te dis, merde, ouais.
Il avait commencé pendant le Covid et il s'est arrêté. Je crois qu'il s'est jamais remis.
Ouais. Il y a une rouge aussi qui est hyper forte sur Insta.
Mais c'est une question culturelle. En fait, c'est une question culturelle. C'est des marques qui sont créées par des millennials et pas par de la Gen Z. Et surtout, il y a toujours la question de la conversion. Moi, là aujourd'hui, on est sur un sujet d'acquisition. Si la problématique est une problématique d'acquisition, TikTok a un potentiel incroyable de construction de communauté hyper rapide. C'est-à-dire que tu peux être un acteur totalement inconnu, tu arrives demain avec la bonne prise de parole qui est bien calibrée, tu es capable d'exploser. Je vais te prendre mon cas très personnel avec mon compte personnel où je fais du contenu sur l'industrie de la mode. En 3 mois, 15 000 abonnés et 3 millions de vues, qui est maintenant aujourd'hui un peu en stand-by. Mais en fait, quelle plateforme peut te promettre de faire 3 millions de vues en 3 mois, et en l'occurrence dont la moitié est concentrée sur 1 mois? Quelle plateforme peut te permettre de gagner 15 000 abonnés en 3 mois? Moi, j'en connais pas d'autres. Donc, on est sur un sujet d'acquisition, faut se poser la question, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, la difficulté, j'enfonce une porte ouverte, mais à un moment donné, bon, n'importe quel marketeur, il te dit, il faut aller sur le réseau social où se trouve ton persona, ton client, etc. En fait, ma question sous-jacente, c'est vers quoi il faut investir le plus de temps et d'argent aujourd'hui à l'ère des YouTube, à l'ère des Pinterest, des Facebook, des Instagram, des TikTok, etc. Parce que pour beaucoup de marques, quand même, en fait, toutes ces plateformes sont attrayantes et elles ont un fort potentiel. Ouais. Comment tu fais ton choix, quoi?
C'est simple, tu pars de la marque, de ce qu'elle a à raconter, de comment est-ce qu'elle veut le raconter, c'est déjà le premier élément. Après, tu pars de tes objectifs, là on est sur de l'acquisition en l'occurrence. Quels sont aujourd'hui les meilleurs outils pour faire de l'acquisition très rapide? La vidéo, ça c'est le premier élément. Donc déjà ça en élimine potentiellement quelques-uns. Ensuite, c'est quoi la plateforme qui va être le plus en lien avec le discours que je veux développer. Par exemple, si je veux être sur des formats vidéo longs parce qu'il y a un grand besoin de pédagogie, etc., bah ce sera plutôt YouTube, quoique depuis hier ou avant-hier, TikTok vient de lancer des formats longs de 10 minutes. Donc ce qui est un vrai game changer pour l'écosystème de la plateforme. Et ensuite, c'est créer de la synergie. Là, on parle de TikTok depuis tout à l'heure, on a parlé des Reels. C'est exactement le même contenu. Potentiellement. Donc c'est créer de la synergie. Mon contenu que je produis sur TikTok peut se retrouver en Reels. Et donc faire du reach. Les abonnés qui vont découvrir le compte TikTok vont potentiellement aller également sur Instagram parce que tu as développé des narrations complémentaires sur les deux plateformes. Que ça va créer du lien, de l'interaction, etc. Donc, en fait, ça vient se compléter. Faut vraiment avoir une vision de 360. Sur YouTube, par exemple, pour de l'acquisition, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Donc voilà, ça dépend également sur quel temps on est, si on est pressé. TikTok est un bon... C'est un bon accélérateur, quoi. Juste si on parle un peu de taux d'engagement. C'est quand même une maîtrise qui est intéressante, le taux d'engagement quand on fait de l'acquisition. Le taux d'engagement sur Instagram, il est, allez, entre 1 et 3%. Il est de 1% pour les marques. Nanoscopique, quoi. Sur TikTok, il est, en fonction des secteurs, entre 15 et 30% pour certains comptes les plus efficaces. Pareil, quelle plateforme peut proposer 30% de taux d'engagement? C'est juste stratosphérique. Donc elle est intéressante. Moi j'entends hein, ce que tu me dis par rapport finalement, est-ce que mon client y est? Moi je dis peut-être qu'il n'y est pas aujourd'hui, en tout cas c'est assez probable que ton client y soit, soit il sera demain, soit que ton client de demain y soit aussi. Donc voilà, c'est quand même intéressant, et sachant qu'on peut réutiliser les mêmes contenus sur TikTok que dans les Reels qui sont vachement poussés par Instagram, mais en fait pourquoi se priver? Pourquoi se priver, quoi?
Et TikTok est une plateforme de conversation aussi autant que Instagram?
Ouais, ils poussent à fond l'échange. Ils ont même créé un produit qui permet de répondre à des commentaires en vidéo pour justement faciliter l'interaction avec la communauté. C'est déjà hyper intéressant, et en fait il y a un taux d'engagement, un taux de commentaires qui est hyper élevé sur la plateforme. Je dirais pas que c'est une plateforme de discussion, Instagram d'ailleurs l'est pas tellement non plus, mais une plateforme d'échange où les gens viennent donner leur avis, et c'est hyper intéressant. Hyper intéressant d'avoir en tant que marque le retour du consommateur également sur sa perception produit.
Qu'est-ce qu'on peut en attendre alors de TikTok? J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc si tu vas développer de la notoriété, est-ce que tu peux transformer en vente l'audience que tu crées sur TikTok? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le média est mature par rapport à ça? L'autre question, c'est concrètement, comment on commence par quoi quand on se lance sur TikTok au mois de mars, Et Troisio, c'est qui les meilleurs élèves en ce moment sur TikTok? De qui il faut s'inspirer?
Okay. Beaucoup de questions. Alors, sur le niveau, le degré de maturité de la plateforme, la plateforme n'est pas encore mature, ça c'est évident, notamment sur la partie paid et conversion. C'est également sur la partie maturité de l'audience qui est encore assez incertaine. Il y a encore du travail sur cette partie-là. Mais c'est une réelle opportunité en termes de développement de communauté. Donc, sachant qu'on est sur un sujet d'acquisition, pour moi, on y va sans se poser finalement la question de la conversion à court terme. Parce que finalement, l'outil se développe assez rapidement. Ils vont vite, ils vont très très vite. Et donc, je pense que la maturité sur le social selling de TikTok sera beaucoup plus rapidement que ça s'est fait sur Instagram. Donc voilà, le reach sur l'application, il est incroyable. Et c'est justement ce qui fait défaut aujourd'hui aux marques. Les marques, elles se plaignent toutes de la chute de leur taux d'engagement. Et donc, de recréer ce lien avec le consommateur, ça me paraît hyper important et essentiel. Et donc, voilà. Il y a juste un autre point sur lequel je voulais peut-être revenir avant de répondre à tes autres questions sur finalement comment est-ce qu'on y va et les bons élèves, c'était ça tes deux questions. Ouais. C'est une autre opposition qui est hyper récurrente sur le contenu que propose l'application. En gros, TikTok, c'est une application pour les ados qui chantent et font des chorégraphies.
Ouais. Oui, c'est vrai.
C'est quand même hyper récurrent. Et donc, moi, en tant que marque, finalement, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Moi, ça ne m'intéresse pas de me retrouver dans un challenge sur Nicki Minaj. Ce n'est pas, pas mon propos. TikTok, c'était ça au début, mais ça a beaucoup évolué en fait depuis. Aujourd'hui, il y a une incroyable diversité de contenus. De contenu inédit, drôle, instructif, dans plein de domaines différents. La danse, l'humour, le sport, la décoration, le bricolage, la beauté, etc. Enfin, il y a une diversité de contenu qui est assez folle. Également la cuisine, enfin voilà. Déjà faut prendre ça en compte et donc du coup cette diversité de contenu elle permet aux marques de venir se positionner sans problème sur le sujet et notamment sur la mode de manière très spécifique. Il y a pareil des sous-catégories à non plus finir, il y a du coaching de style, des commentaires de défilé, du décryptage de tendances, des analyses de marché, des conseils pour acheter et vendre sur Vinted, des produits de luxe, du do it yourself, il y a un peu de tout quoi. Et on retrouve également de la part des marques institutionnelles, enfin des marques établies comme Dior, Gucci, etc. D'autres typologies de contenu, des focus défilés, du backstage. Et également une grosse part narrative où ils viennent vraiment raconter des histoires et porter un autre regard sur la marque. Donc en fait faut pas que ce soit un élément bloquant. TikTok n'est plus une application de jeunes filles en fleurs de 14 ans qui font des chorégraphies, ce n'est plus ça. Donc voilà.
Merci. Non mais c'est vrai parce qu'on avait tous je pense ce biais pendant longtemps. À chaque fois qu'on allait voir, il y a quelques semaines, enfin quelques mois en arrière, TikTok, tu tombes absolument sur ça. Le truc, c'est qu'il y a tellement peu de contenu de marques de mode, c'est que finalement, tu pars vite parce que tu te dis, même les plus gros, ils n'y arrivent pas, donc j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus.
Mais il y en a quand même certains qui arrivent. Peut-être qu'on peut d'ailleurs, on peut enchaîner avec ça directement pour faire le. Pour faire le lien, déjà en fait, il y en a certains qui le font hyper bien dans les grands du luxe, Balenciaga, Dior, Gucci, ils le font hyper bien. ça pourrait être ajusté, corrigé, amélioré, etc. Mais l'intention et la compréhension de la plateforme est quand même là. Donc voilà, avec notamment, je le redis sur Balenciaga, des vrais partis pris narratifs, avec vraiment une compréhension profonde de la plateforme. Gucci également, qui a vraiment joué la carte du challenge à 10 000%, et qui donc a vraiment créé une prise de parole spécifique à TikTok. Et donc qui vraiment, pour le coup, c'est pareil, c'est un bon élève. Ils le font très bien, c'est hyper intelligent, il y a une diversité de contenu mais en même temps pas trop, donc voilà, qui permet d'avoir un propos vraiment vraiment cohérent, donc rendre la chose intéressante. Mais ça, c'est un peu les classiques qui sont cités. Moi, je voulais partager avec toi d'autres références qui me paraissait intéressante de partager avec toi et avec tous les auditeurs du podcast. Je pense notamment à Caudalie, qui est une marque donc de cosmétiques, qui me paraît hyper intéressante dans leur manière d'avoir abordé la plateforme. Pour la régularité, et donc du coup l'investissement de la marque sur la plateforme. Ils postent en moyenne 5 fois par semaine, donc ce qui est énorme, quelque chose de très clair. On a des piliers de contenu qui sont vraiment très identifiés, avec, on vient vraiment rapatrier tous les codes de TikTok à travers des séries de vidéos face caméra qui vont jouer avec les sons qui sont dans les top trends de TikTok. Avec voilà, une collaboratrice de la marque qui vient vraiment illustrer le propos, des focus sur les textures de produits. C'est vraiment cette typologie de contenu là, c'est une typologie de contenu qui est hyper forte en termes de besoins consommateurs dans la cosmétique. C'est ce que veulent voir vraiment les consommateurs, donc ils viennent jouer avec les textures produites, toujours en mettant au cœur l'ADN de TikTok. Et enfin, les ambassadeurs, les créateurs de contenu qui viennent incarner finalement la communauté cible de la marque. Donc Caudalie paraît hyper intéressant. Il y a également en outdoor également Salomon, qui me paraissait et juste, ah oui, pour finir sur Caudalie, ils se sont lancés donc en octobre 2020, donc quelques mois après le Covid, et ils ont déjà 265 000 abonnés. Caudalie, c'est pas une marque énorme, hein, c'est pas si gros que ça. 265 000 abonnés en l'espace de un an et demi, deux ans, c'est juste énorme.
Alors que sur Instagram, ils sont même pas, ils sont autant.
Honnêtement, sur Instagram, je sais pas. J'avais checké à l'époque et là.
Ils sont 919 000 quand même.
Voilà, mais quand même, Caudalie, ça existe depuis pas mal de temps, donc ils ont réussi quand même à créer une communauté assez consistante en un temps record, quoi. Autre exemple qui me paraissait hyper pertinent, c'était la marque Salomon. Alors pourquoi Salomon? Alors déjà parce que en fait il y a une justesse par rapport à leur narration de marque. On est vraiment au cœur de l'outdoor, qui est donc ce que fait Salomon, au cœur de la montagne. Donc ça, c'est le premier élément, mais ils sont venus appliquer ça avec quelque chose qui est au cœur de l'ADN de TikTok, qui est ce ton un peu décalé et humoristique. Ils sont vraiment allés chercher ça pour créer du contenu qui soit en phase avec les codes de TikTok. Donc voilà, avec beaucoup de challenges, beaucoup de où ils vont rapatrier toutes les musiques qui sont en top trends. Donc je les ai trouvés hyper intéressants. Et pareil, alors Salomon, c'est encore plus impressionnant entre guillemets, parce que Salomon, ils se sont lancés il y a 4 ou 6 mois, je crois, sur TikTok. Salomon, c'est 1 million d'abonnés sur Instagram et c'est déjà 150 000 sur TikTok. Donc voilà, c'est quand même solide, quoi, ouais, c'est en quelques mois.
C'est impressionnant. Ok, on a des billes pour se lancer sur TikTok, là, on n'a plus d'excuses.
Exactement, c'est exactement ça. Déjà, tout le monde a des exemples, mais je vais essayer de donner encore plus de billes pour vraiment se lancer sur TikTok et bien faire mon boulot jusqu'au bout. Parce qu'en fait, TikTok, en fait, pour réussir sur TikTok, tu as une règle, c'est s'immerger dans la culture TikTok. Faut comprendre l'algorithme, faut comprendre les codes pour après créer du contenu qui va être original et engageant tout en respectant son identité et son positionnement. L'idée, c'est pas de venir se travestir sur TikTok, c'est pas de faire de dire à Prada allez faire des danses sur Nicki Minaj, c'est pas ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on vient comprendre l'algorithme, deux, les codes, trois, ce qui fonctionne et comment est-ce qu'on vient le retransposer par rapport à mon identité de marque et mon positionnement, bien sûr. Et c'est en ça que Balenciaga est un bon exemple. Donc voilà. Donc, il faut déjà avoir en tête le format. C'est le premier élément. C'est que c'est un format qui est exclusivement vidéo et qui était jusqu'à il y a 2 jours encore entre 6 secondes et 3 minutes et qui là vient de passer à 10 minutes. Ça reste du format hyper court. Les contenus les plus performants sont autour de 30 secondes. On est vraiment sur du snack content pur. C'est des contenus qui doivent attirer l'attention dès les premières secondes, hyper court et qui se consomment très rapidement. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce qu'on retrouve comme typologie de contenu sur la plateforme ? Bah, du contenu, déjà, du contenu qui va être humoristique. Alors, c'est pas forcément du contenu humoristique, on explose de rire, mais il y a toujours une pointe d'humour. Salomon, c'est ce qu'ils ont hyper bien travaillé, notamment, c'est rapatrier cet humour dans leur prise de parole, qui est vraiment en lien profond avec l'ADN de la plateforme. Le rapport à la danse slash la musique slash le son et le bruit de manière générale sur TikTok. Il y a un rapport à l'audio qui est très important, beaucoup plus que sur n'importe quelle autre plateforme. Et il y a ce côté que je qualifierais également de homemade. Il y a une économie de moyens dans la production de contenu qui ne veut pas dire qu'on fait des trucs pas beaux. Et là, je tourne mon regard vers Balenciaga, il y a une économie de moyens et il y a une volonté d'avoir des choses très authentiques. Donc voilà. Et également dans les codes, il y a tout ce qui est autour des trends. Ça, c'est hyper important. L'algorithme, il va se baser sur le contenu qu'on consomme pour proposer d'autres typologies de contenu, contrairement à Instagram qui est basé sur les gens sur lesquels on est abonné. Sur TikTok, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est le contenu que tu consommes. Donc, si par exemple, tu as aimé une vidéo avec une trend avec, je ne sais pas, le dernier son de Doja Cat, il y a pas mal de chances que tu te retrouves avec 3, 4 ou 5 autres vidéos avec la trend musicale de Doja Cat, qui sera traitée de manière différente. Mais voilà, il y a une part très importante par rapport à la musique. Également sur toute la partie trends global, challenge, etc., c'est également très important. C'est ce qui va être poussé par la plateforme. Finalement, TikTok, ça vient comprendre le contenu qui te plaît et te proposer du contenu qui pourrait y ressembler. Donc, c'est hyper important que tu t'inscrives dans l'écosystème de la plateforme. en créant de la rupture et de la spécificité. Donc l'idée, par exemple, c'est sur un challenge de ne pas faire exactement le même, mais de t'inspirer des codes qui en sont issus.
Très bien. Hyper clair.
Donc, je sais pas si je suis assez complet ou pas sur les conseils que je donne. Si tu veux, je peux en donner d'autres d'ailleurs.
Peut-être, ouais, très concrètement. Si demain, alors j'imagine que les gens te posent la question régulièrement, mais tu commencerais par quoi, quoi? Enfin, c'est toujours pareil, tu sais, c'est ce côté se jeter à l'eau. T'as le sentiment, quand t'es une marque qui est déjà établie sur un réseau social, de voilà, le premier post, la première page, t'as un peu le syndrome de la page blanche. On commence par quoi, comment on fait, etc. Est-ce qu'il faut que ça soit tonitruant ou est-ce qu'on commence petit et on avance pas à pas? C'est quoi ta reco par rapport à ça?
Là, aujourd'hui, pour une marque, le principal enjeu, c'est la compréhension des codes de la plateforme. Donc, en fait, faut y aller dessus déjà et y passer du temps. Bien sûr, regarder, faire un benchmark de la concurrence qui va être, à mon avis, assez vite fait. Mais c'est comprendre les codes de la plateforme et qu'est-ce qu'on peut en attendre, c'est quoi un contenu performant ou pas. Et voilà, ça, c'est le premier élément, la compréhension des codes, la compréhension de la plateforme de manière globale. Le deuxième, c'est se poser devant cette fameuse feuille blanche et de se dire ok, qu'est-ce qui est cohérent dans mon ADN de marque avec l'ADN de TikTok, comment est-ce que je peux venir retransposer ces éléments-là dans des éléments de contenu, dans des challenges, dans des prises de parole spécifiques. C'est vraiment ça la clé en fait de la réussite, c'est réussir à retransposer son ADN au sein de la plateforme TikTok avec ses règles. Donc tout ça, ça passe par plein de petites choses. C'est déjà l'algorithme, en fait, il a besoin de comprendre ce que tu fais. Donc pour ça, faut avoir une narration très claire et très identifiable. Faut pas multiplier les typologies de contenu, il faut se dire je vais développer entre 1 et 4 typologies de contenu. Sur ça, par exemple, c'est très intéressant. Instagram t'incite à démultiplier les typologies de contenu. Sur TikTok, pas du tout. Sur TikTok, tu peux avoir une typologie de contenu. C'est d'ailleurs ce qui te permet le plus d'exploser, de percer. Si tu as une typologie de contenu très claire qui est identifiable par la plateforme. Concrètement, tu es une personne qui fait vidéo éducative sur l'application de produits de beauté et tu fais toujours le même format, TikTok a compris que toutes les personnes qui aiment le contenu éducatif sur la beauté, il fallait les heureuser avec ton contenu. Donc c'est hyper clair. En revanche, si tu as une fois contenu éducatif, une fois texture, une fois ambassadeur, une fois... Et bien là, tu éclates ta prise de parole. Donc, ça peut fonctionner, comme ça a été le cas pour Caudalie, mais tu peux aussi involontairement te tirer une petite balle dans le pied. Donc, c'est vraiment avoir une narration claire, très, très claire pour l'algorithme. Donc, voilà, et sur lequel tu vas vraiment développer ta singularité, tes points de différenciation quitte à les amplifier. C'est vraiment l'idée que ça devienne un point finalement saillant de la communication de la marque. Donc voilà. Le deuxième élément, c'est si tu as vraiment peur d'y aller, que tu maîtrises vraiment pas les codes, que tu n'as pas envie de passer du temps, c'est collaborer avec un créateur de contenu. La force aujourd'hui des créateurs de contenu, c'est de faire rayonner le message de la marque avec beaucoup d'authenticité. L'authenticité, elle est au cœur. Le côté intuitu personae également est hyper important au sein de la plateforme, d'incarner ce message-là. Et les créateurs de contenu sont un levier pour le faire. Et pour ça, donc, faut trouver des gens avec de la personnalité, une communauté, mais d'ailleurs, il n'y a pas ce même impératif de de communauté vraiment construite, comme sur Instagram, mais surtout de cohérence avec l'univers de marque. Ça, c'est hyper important. Sur toute la partie également, et ça fait écho à ce qu'on s'est dit un peu plus tôt, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de produire homemade tout en étant exigeant sur la qualité du contenu. Mais on peut produire de la vidéo avec peu de budget. Ça va coûter du temps, c'est sûr. Mais en fait, cette économie de moyens, elle fait partie de l'ADN de TikTok.
Bien sûr.
Elle va être valorisée. Si on compare, par exemple, la communication d'une marque comme Levi's, qui est pareil, une très bonne marque à suivre sur TikTok. Si on regarde Levi's, ils ont une prise de parole qui est très différente sur Instagram et sur TikTok. Et on ressent vraiment cet aspect économie de moyens, homemade sur TikTok, quoi. Et l'idée, c'est vraiment, faut aussi voir TikTok comme un moyen d'instaurer finalement de la proximité entre la marque et le client et de venir vraiment renforcer cette authenticité. Donc voilà. Également, il y a tout ce courant également sur TikTok qui est un peu sous-exploité actuellement, qui est autour du contenu pédagogique qu'on trouve beaucoup sur la beauté, moins sur la mode. Et pourtant, au cœur de TikTok, il y a vraiment cette idée de collaboration et de partage de connaissances.
J'ai quelqu'un qui essaie de rentrer.
Vas-y. La réfraction.
Pause alerte. Pardon, désolé. Okay.
T'inquiète. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, on a vraiment au cœur de TikTok cette idée de contenu pédagogique qui est vraiment pas assez qui est très présent donc dans les marques de beauté mais vraiment pas assez dans les marques de mode. Il y a vraiment cette idée de collaboration et de partage de connaissances qui est au cœur de l'ADN de la plateforme et ça peut être hyper intéressant de venir rapatrier cette typologie de contenu là, de contenu pédagogique pour partager de la connaissance, bien sûr en lien avec la narration de la marque. C'est notamment ce qu'a fait Asphalt de manière assez intelligente sur la plateforme.
Trop bien.
Et autre élément, c'est, je pense, autre conseil, c'est le côté sonore de la marque. C'est une des plateformes, contrairement par exemple à Instagram, où le contenu peut être consommé sans l'audio, quand on ouvre TikTok, le son il est activé automatiquement. Donc l'audio a une part très importante dans le fait également de stimuler et d'engager les gens. Donc ça passe par de la bande son, mais également par le fait de capter l'attention de l'audience en étant soi-même sonore, sur la manière dont on pose sa voix, dont on va bouger son corps, etc. C'est hyper important. Il y a également tout ce qui va être autour des tendances musicales qui va être hyper important, ouais.
Trop bien. Parfait. Et ben on a un petit guide du TikTok
en podcast. Je vous tous sur TikTok et notamment réunis, dis donc.
En effet. On y réfléchit. Mais on a tellement de chantiers, il y a tellement de sujets. Et puis, franchement, monter une marque à notre époque, il faut se lever tôt, hein, putain.
Ouais, c'est le plus grand élément de blocage aujourd'hui, c'est le temps que prend la production de contenu finalement.
Mmh. Ouais, c'est un full-time job de la part notamment des fondateurs ou en tout cas, t'as besoin de t'entourer de façon assez solide parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Très bien, écoute, on clôture le podcast sur ces bons mots. Merci infiniment pour ton temps et pour ta générosité dans tes propos parce que c'est des choses qui se vendent aussi. et donc, merci infiniment de nous en faire part gratuitement. Et bonne continuation et à très, très vite, j'espère.
À bientôt, Adrien.
Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.